Thomas Fessy, bonjour.
Bonjour.
Certaines pratiques, dites-vous, sont en train de revenir rapidement en RDC et cela vous inquiète.
Oui, notre recherche montre en effet qu'un certain tournant répressif a été amorcé en janvier cette année. Nous avons documenté de nombreux cas d'abus, comme des menaces, des intimidations, même des arrestations arbitraires, parfois assorties de poursuites judiciaires. Il y a beaucoup de journalistes, d'activistes pacifiques ou de membres de partis politiques qui sont concernés par cette répression. On a également observé pendant près de 4 mois d'état d'urgence décrété en raison de la pandémie de Covid-19 que ces mesures avaient parfois été utilisées comme prétexte pour limiter ou réprimer les manifestations pacifiques et qu'il y avait eu un usage excessif de la force contre les manifestants. Donc notre inquiétude est aussi une forme de sonnette d'alarme pour dire attention. Le risque est que si cette tendance n'est pas tout de suite enrayée, on puisse retomber vraiment dans les vieilles habitudes répressives de l'administration précédente.
Et les journalistes ne sont pas épargnés.
Exactement. Sur tous les cas que nous avons documentés, près de la moitié sont des journalistes. Les menaces ou intimidations viennent parfois directement de l'entourage du gouverneur de province, par exemple. Alors, lorsqu'un journaliste est arrêté pour avoir fait telle ou telle interview, puis est interrogé par les services de renseignement qui lui confisquent ses enregistrements, comme nous l'avons documenté à Matadi, par exemple, c'est un gros problème. Lorsqu'un journaliste ou un activiste reçoit des messages de menaces à leur encontre ou contre leur famille de la part d'autorités, des gouverneurs ou parlementaires, c'est un problème. Lorsque les autorités d'une province ferment des radios, interdisent des programmes ou ordonnent même de radier des journalistes de la profession, c'est un gros problème. Et le président Tshisekedi a répété son engagement pour que la presse devienne le quatrième pouvoir du pays. Pour cela, il faudrait que les journalistes puissent faire librement leur travail et la loi devrait être révisée pour que les sanctions, si elles ont lieu d'être, soient proportionnées.
Ils sont la plupart du temps poursuivis pour outrage à l'autorité de l'État. Pourquoi? Simplement parce qu'ils dénoncent la mauvaise gestion dans leur province?
C'est en effet l'offense qui revient le plus. Et donc le point commun de toutes ces victimes est qu'elles se retrouvent accusées ou reconnues coupables d'avoir critiqué les politiques du gouvernement ou des administrations provinciales, y compris sur les réseaux sociaux. Un jeune activiste de Bandaka, par exemple, dans l'ouest du pays, a passé près de 6 mois en prison pour avoir critiqué la politique provinciale. Il vient à peine d'être libéré. Sur les cas de notre recherche, deux sont encore derrière les barreaux. Un porte-parole de parti politique emprisonné à Bukavu pour avoir critiqué la politique de l'administration provinciale et un autre membre de parti politique à Kinshasa qui, lui, a été condamné à 18 mois de prison pour outrage au chef de l'État. Nous avons recensé de tels cas dans 13 provinces, donc c'est la moitié du pays et nous savons qu'il y a encore beaucoup de cas à documenter. Donc c'est vraiment une tendance générale.
Au niveau de l'armée, John Numbi, qui est soupçonné de l'assassinat de Floribert Chebeya, vient d'être écarté. Il n'a plus de poste à responsabilité. Est-ce que vous pensez que c'est un pas dans la lutte contre l'impunité?
Il est probablement encore un peu tôt pour juger du jeu de chaises musicales auquel s'est livré Tshisekedi pour remanier l'état-major des armées. On pourrait évidemment se dire que si John Numbi n'a plus de fonction, c'est qu'il a été écarté. Mais on ne sait pas quel rôle il continuera de jouer. Son influence peut continuer sans être pour autant un poste officiel, notamment de par sa proximité avec l'ancien président Kabila. Il y a aussi le fait qu'il a été remplacé par un autre général sous sanction, le général Amissi Tambo Fort, impliqué lui aussi dans de graves violations des droits humains, et d'autres hauts gradés, également sous sanction, ont été promus. Donc le pas dans la lutte contre l'impunité ici est à nuancer.
À propos de la situation dans les prisons, vous vous étiez beaucoup inquiété pour la survie même des prisonniers avec cette épidémie du Covid. Est-ce que l'État congolais a fini par verser de quoi nourrir ces prisonniers?
Malheureusement, cela reste un gros problème. Le décaissement des budgets alloués aux prisons ne vient toujours pas, et ce depuis janvier, ce qui veut dire que c'est le système de la débrouille, en gros. Les directeurs d'établissements pénitentiaires sont obligés de demander des crédits aux fournisseurs, ils accumulent les dettes, c'est intenable. Les détenus dépendent aussi beaucoup des colis de nourriture livrés par leurs familles, et certains établissements avaient interdit cela ces derniers mois en raison de la pandémie. Une partie de détenus, donc, se retrouvaient sans rien. Et c'est un peu partout dans le pays, on s'organise localement, des organisations participent ou les églises dépannent pour quelques jours ou une semaine, ça et là. Cela ne règle pas le problème et la malnutrition est exponentielle dans bon nombre de prisons à travers le pays.
Thomas Fessy, merci.
Merci beaucoup.